Je pense que depuis 24 heures, la planète showbiz a un seul sujet en tête ou un seul mot en tête, c'est Marie-Pierre Morin et Safia Nolin. En fait, une seule phrase, c'est plus qu'un mot, évidemment. Mais donc, Marie-Pierre Morin et Safia Nolin, je vous dirais qu'au cours des dernières 24 heures, ça a déboulé énormément cette histoire-là. Autant je trouvais que les gens en parlaient pas beaucoup, en fait, en parlaient pas rapidement hier, mais au moment où on dirait certains médias ont pris... En fait, au moment où Marie-Pierre Morin a réagi, là, ça a vraiment déboulé. Ouais. Au moment où on se parle, Marie-Pierre Morin a perdu deux gros commanditaires qui ont décidé de se détacher de son nom. Il s'agit de Bon Look ainsi que de Bloch Lingerie. Et bon, on peut s'imaginer que c'est possiblement pas les derniers commanditaires non plus à se détacher ou de arrêter de s'associer avec Marie-Pierre Morin à cause de ce qu'elle aurait présumément fait à Safia Nolin.
Mais quand ça part, là, c'est bien dur de renverser la tendance. On l'a vu avec plusieurs autres personnes qui ont été impliquées là, dans des mouvements MeToo ou autres. On se souviendra de Tiger Woods.
Oh, oui, ça a été effectivement...
Mais Tiger Woods, c'était de l'infidélité. C'était différent.
Oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. C'était pas du harcèlement sexuel ou des agressions sexuelles. C'était autre chose, mais qui venait nuire totalement à son image.
Ouais.
Et Marie-Pierre Morin... En fait, la dénonciation de Safia Nolin envers Marie-Pierre Morin, c'était pas la première. Hein. Ça fait... Je vous dirais que depuis les derniers jours, les dernières semaines, il y a énormément de dénonciations sur les réseaux sociaux qui touchent des gens et des grandes vedettes de partout dans le monde. On dirait qu'une vague de MeToo qui a comme repris un petit
une
peu.
Seconde vague.
Une seconde vague pour le
parler de seconde vague autre que la COVID.
Oui, effectivement. Et il y a une chose que ça a amené, c'est qu'on a appris que les services de Jury Pop étaient débordés, et ce, depuis lundi. Ils sont débordés d'appels, apparemment, qu'à toute heure, en fait, à tout moment de la journée, il y a des appels de gens qui veulent savoir comment ça fonctionne si on veut porter plainte, qui veulent être mis en contact avec un avocat. Il y a vraiment eu une différence, là, à propos de l'achalandage, mettons, à Jury Pop. Puis tout ça concorde avec l'espèce de seconde vague du MeToo. Pour en parler, on va aller rejoindre à l'instant une avocate de Jury Pop. Elle s'appelle Sabrina Vigneault-Courchêne. Madame Vigneault-Courchêne, bonjour.
Bonjour.
Madame Vigneault-Courchêne, en temps normal, si on compare l'achalandage de Jury Pop versus ce que vous avez observé cette semaine, est-ce que c'est deux fois plus d'appels, trois fois plus d'appels? Ça ressemble à quoi, là, tout ça?
Bien, écoutez, en fait, nous, on a lancé les services gratuits à la population pour toute personne étant alliée, témoin ou personne ayant vécu des violences à caractère sexuel le 3 juin dernier. Et donc, je vous dirais qu'il y a eu vraiment... effectivement, là, une très grande croissance des appels et des demandes qui ont été soumises. C'est, en fait, 25 % des demandes ont été soumises dans les trois derniers jours, comparativement, là, si on fait un retour sur le mois dernier. Donc, une affluence très importante là, dans les trois derniers jours, effectivement.
Et est-ce que vous, en fait, vous associez cette affluence-là à l'espèce de seconde vague de MeToo qu'on a pu observer, en fait, qu'on a tous pu observer dans les dernières semaines?
Oui, absolument. En fait, on voit aussi la nature des demandes qui diffèrent, le profil des gens qui nous contactent qui diffèrent, à savoir que déjà, on a beaucoup de jeunes qu'on dessert, soit dit en passant, qui nous contactent via des plateformes de médias sociaux comme Instagram, par exemple, qui vont compléter le formulaire seul en ligne le soir, la nuit même. Alors qu'au départ, au début du lancement des services, on avait plutôt des appels de personnes pas nécessairement d'un jeune âge. Là, donc, on voit effectivement que c'est très, c'est un mouvement qui est très distinct là, de ce qu'on a pu vivre dans le passé.
Et on sait que bon, dans les dernières années, ce qui a été critiqué beaucoup du côté des victimes d'agressions sexuelles, c'était justement les démarches à suivre pour pouvoir porter plainte et le sérieux qu'on accordait à ce type de plainte-là. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi exactement les procédures ou les démarches à partir du moment où on appelle Jury Pop pour éventuellement avoir recours au service d'un avocat pour porter plainte? Le sérieux qu'on accorde aux plaintes d'agression sexuelle lorsqu'on va à la police, comment ça fonctionne tout ça?
C'est une très bonne question, puis c'était vraiment un souci pour nous de s'assurer que le service, nos services soient vraiment 100% accessibles et inclusifs. On s'est d'ailleurs doté d'un comité aviseur sur l'intersectionnalité dans notre démarche pour s'assurer qu'il n'y ait pas de barrière à l'accès de nos services. Donc, nous, notre processus est très simple. C'est 10 questions dans un formulaire en ligne. On vous rappelle rapidement 4 questions supplémentaires. Puis quand je dis 10 questions, là, ça inclut prénom et nom de famille. C'est tout à fait confidentiel. Et en fait, on évalue, on vous met en contact avec l'avocat, avocate de votre choix de notre réseau. Ultimement, vous pouvez poser toutes vos questions et de manière sécuritaire, confidentielle, mais aussi pour évaluer toutes vos options. Vous nommiez à l'instant la plainte à la police. Ça fait partie effectivement des options, mais il y a aussi d'autres types de droits qui sont applicables, droit civil, des fois il y a des enjeux enjeux d'immigration. Des fois, c'est dans les lieux du travail, donc on peut penser à la CNSST. Bref, on est vraiment là pour explorer toutes les options avec la personne concernée. Puis je veux vraiment mettre l'emphase sur le fait qu'on met pas du tout de pression pour porter plainte à la police ou pour entreprendre des démarches judiciaires. C'est vraiment un espace sécurisant pour les personnes qui nous contactent pour évaluer leurs options sans être jugées parce que on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour croire les personnes qui nous contactent et pour vraiment, ultimement, leur expliquer c'est quoi les différentes avenues. Et l'autonomie est au cœur de nos services. Donc, ultimement, les gens peuvent finalement prendre les décisions qui correspondent le mieux à leurs besoins. Des fois, c'est passer dans le processus judiciaire. Des fois, pas du tout. Des fois, c'est je veux absolument que la personne aille derrière les barreaux. Donc, de comprendre c'est quoi les différentes étapes, qu'est-ce que ça implique. Parce que, comme vous le nommez, il y a effectivement plusieurs étapes avant de se rendre même à procès. Donc, on est là pour leur donner un peu de lumière dans tout ça.
Maître Vigneault-Courchesne, on a vu dans les derniers jours, c'est une vague de dénonciations sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous auriez à dire à une victime qui, elle, serait tentée de faire une dénonciation de la sorte sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une bonne façon de faire?
Écoutez, je veux déjà d'emblée nommer le fait que on voit en fait que c'est un peu un cri du cœur. Je pense que faut penser un peu à l'historique de tout ça. Je pense que les juristes, le système de justice a à regagner la confiance des personnes, comme vous les nommez, victimes de violences à caractère sexuel. Puis il y a une raison probablement pour laquelle elles se tournent vers les médias sociaux pour libérer leur voix. Donc, ceci étant dit, il y a effectivement des enjeux juridiques qui sont relatifs à ça. Nous, Juripop, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir permettre aux gens de faire ce qu'ils souhaitent. Donc, non, on n'est pas là pour dissuader personne, mais de faire ce qu'ils souhaitent, mais en toute connaissance de cause, donc des risques que ça implique de faire de telles dénonciations sur les réseaux sociaux pour être certaine que elles ne font pas les frais là, de par exemple, de poursuites judiciaires qui pourraient s'en suivre sans ne l'avoir anticipé. Donc, c'est vraiment de prendre des choix libres et éclairés.
Madame Vigneault-Courchesne, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup. Passez une belle soirée. Sabrina Vigneault-Courchesne est avocate chez Juripop. Écoutez, c'est assez clair que ce mouvement-là a amené des victimes à vouloir s'informer sur la façon de procéder si jamais on voulait aller plus loin avec une plainte. Le nouvel achalandage des derniers jours, c'est pas un hasard.
Il y a ça, mais il y a aussi les gens qui, eux, de leur côté, reçoivent des mises en demeure pour diffamation parce qu'ils sont allés sur les réseaux sociaux et là, savent pas trop quoi faire avec une mise en demeure. Ils reçoivent ça, puis oh, OK, ben ça peut mener à quoi?
Ben, c'est ça, là, tu sais. Puis moi, je me dis, c'est sûr que c'est pas la bonne façon, en passant, de dénoncer sur les réseaux sociaux. Là, je pense que ça, c'est assez clair. Puis c'est souligné par tout le monde qui parle de ces histoires-là depuis quelques jours. Tous les chroniqueurs ils mentionnent, puis font bien de le mentionner. C'est pas l'option qui est privilégiée présentement, si vous voulez porter plainte contre quelqu'un. C'est pas en utilisant les réseaux sociaux que ça va nécessairement, que ça va nécessairement même mener à une condamnation ou à des accusations, même que très souvent, ça pourrait nuire. Si jamais vous voulez aller plus loin avec cette cause-là. Alors, le meilleur, c'est toujours d'avoir recours au service d'un avocat. Des fois, si c'est pas une poursuite criminelle qui va s'en suivre, ça pourrait être autre chose. Ces avocats-là sont là pour vous informer des mesures légales que vous pouvez prendre pour aller plus loin avec ça. Alors, jamais qu'on va préconiser une approche avec les réseaux sociaux quand vient le temps de faire une dénonciation. Et d'ailleurs, tous les avocats qui se sont prononcés là-dessus le disent eux-mêmes, ce n'est pas la bonne façon de faire. Ils sont là pour vous aider si jamais il y a quoi que ce soit. Juste avant d'aller à la pause, je vais quand même vous lire une autre réaction de Marie-Pierre Morin. Elle a réagi un petit peu plus tôt aujourd'hui. Elle avait déjà réagi hier, on l'avait même lu pendant l'émission, où elle s'excusait à Safia Nolin. Elle reconnaissait en fait qu'effectivement les gestes par rapport au harcèlement sexuel que Safia Nolin avait dénoncé avaient bel et bien eu lieu ce soir-là au bar. Elle l'avait bel et bien mordu. Elle disait que Safia Nolin, par contre, lui avait envoyé une photo de la dite morsure quelques jours après, accompagnée d'un LOL qui peut être interprété comme si au moment où c'est arrivé, elle avait trouvé ça drôle d'avoir une marque ou quoi que ce soit. C'est difficile, en fait, de l'interpréter, mais disons que ça laisse place à l'interprétation, ça, c'est sûr. Marie-Pierre Morin s'est excusée sur le champ et encore une fois quelques jours après. Et deux ans plus tard, Safia Nolin a quand même décidé de dénoncer cet événement-là. Depuis la dénonciation, deux commanditaires ont largué Marie-Pierre Morin, soit Bon Look ainsi que Bloche Lingerie. Et aujourd'hui, elle a réagi, elle a émis un communiqué. Elle ne fera pas d'autres commentaires ou entrevues, mais voici ce qu'elle avait à dire. J'ai décidé de prendre une pause de l'ensemble de mes activités professionnelles et ce, dès maintenant. Je souhaite consacrer cette période pour m'occuper de ma santé physique et mentale. Je ne cherche pas à excuser mes gestes et mes paroles. Je cherche plutôt à comprendre et surtout à trouver l'aide dont j'ai besoin. J'entame donc une thérapie avec des professionnels de la santé qui sauront m'aider. Merci à mon amoureux, à tous mes amis, à mon équipe et à ma famille qui m'accompagnent en ce moment. À bientôt. Et ça vient de Marie-Pierre Morin. Alors, il y a certainement une démarche qui est entamée du côté de Marie-Pierre Morin. Avec une déclaration comme celle-là, tu reconnais quand même avoir besoin d'aide parce que tu vas chercher l'aide pour ne pas justifier les gestes que tu as posés.
Il y a autre chose, de toute évidence. Il n'y a pas juste l'affaire Safia Nolin. Moi, c'est comme ça que je le comprends.
Moi, je n'irai pas jusque-là. Par contre, là, je vois quand même que pour l'événement qui est sorti sur la place publique, qui est celui sur Safia Nolin, elle reconnaît que c'était grave au point qu'elle doit aller chercher de l'aide pour ça.
Juste une fois?
Moi, c'est ce qu'on a comme information, fait que je n'irai pas plus loin là, pour l'instant. Je comprends que suite à cet événement-là, elle va chercher de l'aide. Pour le reste, je ne sais pas. Mais c'est vraiment une reconnaissance, par contre, d'un problème que tu as. Là. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Parce que tu vas chercher de l'aide, tu entreprends une thérapie. Je me demande, ça va-tu faire un Joël Legendre et dans 2 ans, elle va revenir sur la place publique en disant qu'elle a changé, qu'elle a travaillé sur elle-même. Vous savez, il y a eu des gens qui sont tombés de très, très haut à une certaine époque et qui sont revenus ensuite sur la place publique. Joël Legendre, c'est un exemple. Aujourd'hui, honnêtement, j'ai l'impression qu'il est pas mal réintégré à 100%. Quand on pense à Joël Legendre, on pense de moins en moins à l'événement qui avait eu lieu.
Réintégré à 100%, je dirais peut-être pas, non. Non, okay. Oui, il a été réintégré, mais il y a peut-être des rôles un peu moins principaux.
Oui, t'as raison, c'est vrai, effectivement. Mais on le voit encore dans des talk shows, avoir du fun, puis arriver.
Mais c'est devenu le faire valoir davantage.
T'as raison, c'est vrai, effectivement.
Peut-être qu'il revient graduellement, puis tranquillement, il va retrouver son statut. Mais
peut-être, mais ça fait longtemps. C'était quoi, en 2015, cette affaire-là, je pense, même avant.
À peu près, là. Mais c'était quand même relativement sérieux pour qu'il prenne une pause.
Oui, absolument. Alors, c'est à suivre pour le cas de Marie-Pierre Morin. Elle se retire pour l'instant de toutes ses activités professionnelles. Elle va travailler sur elle-même et entreprendre une thérapie.